Je ne fais nul doute que ne ressentiez comme nous-mêmes le heurt que Dieu nous a fait de donner le moyen au roi monsieur mon fils de se défaire de ses sujets rebelles à Dieu et à lui, et qu'il lui ait plu de faire la grâce de le préserver, et nous tous, de la cruauté de leurs mains. Lettre de Catherine de Médicis à Philippe II d'Espagne, le 28 août 1572.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Depuis 1562, le royaume de France subit les luttes entre la minorité protestante et une partie de la société catholique. Ces guerres de religion vont ensanglanter le royaume pendant une trentaine d'années. Très souvent, la politique de la monarchie a été de pacifier ou d'essayer de pacifier la société française. Ainsi, la reine Catherine de Médicis et le roi Charles IX, son fils, ont signé en 1570 un édit de tolérance pour essayer de parvenir, grâce à cet édit de Saint-Germain, à un accord entre leurs sujets catholiques et leurs sujets protestants. Cette politique était largement soutenue par Michel de l'Hôpital, chancelier du royaume, catholique modéré, qui essayait de sortir de l'infernale spirale de la guerre civile. Mais à vrai dire, toute la société ne partageait pas cet espoir de pacification. Et bien des catholiques, comme certains protestants, souhaitaient que ce soit finalement par la force que la querelle religieuse soit vidée. La reine Catherine a essayé au début des années 1570 de trouver des solutions par une politique matrimoniale. Ainsi, elle a marié Charles IX à la seconde fille de l'empereur Ferdinand de Habsbourg, Élisabeth. De même, elle a essayé de marier la reine d'Angleterre, Élisabeth, avec son fils Henri, mais celui-ci était extrêmement réticent. Elle a échoué également avec son dernier fils, François d'Alençon. Mais par contre, elle a eu la satisfaction de convaincre la reine de Navarre de marier son fils Henri, futur Henri IV, à Marguerite, la sœur cadette du roi Charles. Le mariage était à la fois un moyen et une image de la réconciliation. Les noces se déroulent à Paris le 18 août 1572 et le lendemain, la reine Catherine prit la plume pour expliquer au pape Grégoire XIII que ce mariage, en apparence contre nature, était nécessaire au repos du royaume. Parmi les grandes têtes du parti protestant se trouvait l'amiral Gaspard de Coligny, qui avait retrouvé sa place au Conseil royal après la paix de Saint-Germain d'août 1570. L'amiral prônait une grande politique militaire. Il estimait en effet nécessaire à la réunification de la noblesse française une guerre contre l'ennemi traditionnel espagnol et il poussait donc Charles IX à engager les hostilités à propos des Pays-Bas. Mais, le 22 août 1572, au milieu de la matinée, l'amiral de Coligny rentrait chez lui après avoir participé à un conseil au Louvre, quand un tir d'arquebuse lui traversa le bras gauche et lui brisa plusieurs doigts de la main droite. Qui avait fait le coup ? On savait qu'un certain Maurevert apportait le coup d'arquebuse. Mais ce Maurevert n'est qu'un prête-nom. Qui se cache derrière lui ? En fait, rapidement, l'idée que le clan des Guises, dirigé par Henri de Guise, soit derrière la tentative d'assassinat de l'amiral, ne faisait guère de doute pour bien des personnes présentes à Paris. D'ailleurs, dans ses mémoires, Marguerite de Valois écrit « Le roi Charles se doutant bien que ledit Maurevert avait fait secours sous la décision de M. de Guise pour la vengeance de la mort de feu M. de Guise, son père, que ledit amiral avait fait tuer de la même façon. Donc, a priori, le coup viendrait des Guise. Mais la difficulté, c'est que à l'annonce de cette tentative d'assassinat, Paris bruisse de divers bruits. Les protestants commencent à bouger en réclamant une justice royale prompte. Les autorités municipales mobilisent leurs troupes pour protéger l'hôtel de ville en cas d'émeute. Et puis, pour beaucoup de catholiques, et au conseil royal même, on craint que, en guise de vengeance, les princes protestants qui se trouvent à Paris ne tentent un coup de force, peut-être même contre le roi. Aussi, un conseil royal se réunit le 23 août 1572 dans la soirée, au Louvre. En fait, le conseil décide, semble-t-il, un coup de force préventif. Il s'agit de mettre à mort ce qu'on appelle les huguenots de guerre, c'est-à-dire les chefs protestants capables de mener un conflit armé. On dressa sans doute une liste d'hommes à abattre, peut-être une centaine. Mais il n'était pas question de s'en prendre à la totalité de la communauté protestante que le mariage d'Henri et Marguerite avait mené à Paris. Le dimanche 24 août, entre 3h et 4h du matin, les gardes du roi, les seigneurs de la cour et leurs suivants entamèrent la besogne. Le duc de Guise et son oncle, le duc d'Aumale, allèrent chez l'amiral de Coligny. Ils achevèrent le blessé. Le corps fut jeté par la fenêtre, traîné vers la Seine, décapité, émasculé, puis on le pendit par les pieds au gibet de Montfaucon. La plupart des protestants qui logeaient au palais ou dans les rues voisines furent rapidement tués. Plus d'une centaine de seigneurs trouvèrent ainsi la mort. Parmi eux figuraient Téligny, gendre de l'amiral, qui avait négocié la paix de Saint-Germain, La Rochefoucauld, Ségur Pardaillan, Pilès, Soubise. Quant au jeune Henri de Navarre et son cousin Henri de Condé, eh bien ils furent épargnés car ils étaient à la fois de sang royal et ils avaient accepté de se convertir. Mais le problème, c'est que l'on va changer d'ampleur du massacre. Au début, c'est sans doute un coup de force royal pour éviter une émeute protestante dans Paris. Mais dans la matinée du 24 août, le massacre change de dimension. Au sein du Tocsin, les miliciens, les militants catholiques à la croix blanche sur le chapeau, se ruent dans les maisons des protestants. Dans la plupart des massacres, on retrouve un groupe d'individus particulièrement déterminés. Au sein de la milice parisienne se trouve un noyau d'activistes catholiques que les magistrats municipaux ne contrôlaient plus. Dès lors, on passe d'un massacre limité à la raison d'État à un véritable massacre de masse. On estime que 3000 personnes ont été tuées lors de la journée du 24 et jusqu'au 28 août. Mais ce qui est remarquable, c'est que la Saint-Barthélemy ne concerne pas uniquement Paris, mais plusieurs villes du royaume qui ont appris progressivement ce qui s'était passé dans la capitale. Le roi n'a envoyé aucun ordre d'exécution écrit, mais des rumeurs, des ordres oraux ont été diffusés, ce qui fait que les violences se déroulèrent progressivement dans une grande partie des villes du royaume. À Orléans, où il y eut 1500 morts, puis à Meaux, à Bourges, à Angers, à Saumur, à Lyon, à Troyes et à Rouen, et au début du mois d'octobre, dans le sud-ouest du royaume, à Bordeaux, Toulouse, Gaillac, Albi et Rabastens. Au total, sans doute, une dizaine de milliers de morts. Dans une lettre adressée au gouverneur, le roi, le 27 août 1572, interdit l'exercice du culte réformé pour apaiser les troubles, ce qui fit confirmer le 24 septembre. Néanmoins, la liberté de conscience n'était pas remise en cause. Il n'en restait pas moins vrai que l'autorité royale avait été totalement dépassée par la violence parisienne. Restait donc à expliquer l'inexplicable. Première explication, déjà évoquée, il s'agissait d'une affaire entre la maison de Guise et les gentilshommes et amis de l'amiral de Coligny. Le roi avait dû céder à cette pression. Seulement, on ne pouvait pas l'affirmer de manière publique, car cela signifiait que le souverain aurait perdu complètement la main dans son autorité. Donc, deuxième version, la sédition huguenote. Elle était dirigée non seulement contre les Guises, mais aussi et surtout contre le roi. Donc, il avait fallu punir des rebelles avant qu'ils ne prennent les armes. C'est ainsi que Charles IX expliqua cette situation dans son lit de justice tenu à Paris le 26 août. En fait, à partir du massacre de la Saint-Barthélemy, commence à se développer le système de la raison d'État. L'hérésie n'était plus vue comme la cause du courroux divin, mais comme sa conséquence. Dieu voulait d'abord que les catholiques purifient leurs âmes, et ce n'est qu'à l'issue de ce travail que l'Église pourrait retrouver son unité. Quant à la monarchie, elle expliquait effectivement par la raison d'État la nécessité d'un massacre limité, mais qui en fait lui avait progressivement échappé. Comme le dit si bien Montaigne, au regard de la situation qu'il connaissait, le bien public requiert parfois qu'on trahisse, qu'on mente et qu'on massacre.